On va aller rejoindre tout de suite Patrice Saint-Pierre de la FADOC. Allô, Patrice.
Bonjour, Annick.
Patrice, on a lu dernièrement dans l'actualité, ça a été annoncé une nouvelle formation accélérée pour devenir préposé aux soins à domicile. Et ça, ça vous réjouit, ça?
Bien, ça nous réjouit. Puis, tu sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'un Québec qui est vieillissant, d'une démographie où on a de plus en plus de gens qui sont âgés. Ça impose une modification aussi très, très importante pour maintenir nos infrastructures, nos services. On le voit au niveau de l'emploi, hein. Il y a des pénuries d'emploi dans de nombreux domaines. C'est le cas au niveau des préposés aux bénéficiaires. Bon, qu'un McDonald's soit pas ouvert durant une nuit pour un service, on peut s'en passer, mais que nos services essentiels, comme des soins de santé, comme des résidences privées pour aînés, n'aient pas de personnel de façon suffisante, bien ça, c'est préoccupant. Et le gouvernement, suite à de nombreuses représentations qu'on a effectuées depuis plusieurs années, la FADOC, ben a décidé d'aller faire une modification pour la formation. Laquelle formation nécessitait auparavant, là, si on fait des chiffres, 870 heures. On a diminué ça à 705 heures. Donc, c'est une formation qui est en accéléré sur 5 mois, qui va permettre là de voir arriver de nouveaux préposés dans le milieu de la santé, notamment dans les institutions publiques, bien entendu. Mais également, il faut rappeler que les résidences privées ont également beaucoup de préposés aux bénéficiaires. Donc, cette formation-là qui a été mise en place, là, qui va être mise en place dans chacune des régions du Québec, devrait permettre là de former d'ici l'automne 2024, on parle de 1000 nouveaux préposés qui pourront travailler en soutien à domicile. Donc, compte tenu des enjeux et des besoins actuels, là, c'est une nouvelle qui va dans le bon sens. Et c'est intéressant parce qu'on voit depuis quelques temps, faut rappeler le 200 millions qui a été investi au niveau des résidences privées. Donc, on voit à force de revendiquer, à force d'amener des éléments positifs, bien, le gouvernement s'en inspire, puis on espère que ça va continuer dans ce sens-là.
Il faut valoriser aussi cette profession-là. Ça prend des qualités de cœur exceptionnelles pour faire ça.
Et tabarnouche. À qui le dis-tu? C'est une intervention. Hein? Tes propos sont tout à fait justes. Il faut être à quelque part un peu missionnaire.
Oui.
Mais vous savez, au-delà du salaire dans ce type de travail-là aussi, il y a le bien qui est fait aux individus eux-mêmes. Il y a même des populaires émissions actuellement qui roulent à la télé dans lesquelles on voit des préposés aux bénéficiaires. Puis on voit que le rôle de ces gens-là, au-delà des soins qu'ils prodiguent également, tout au niveau de l'aspect mental, du contact humain qu'ils vont avoir avec leurs patients, ils ont tout un impact sur la réhabilitation des personnes ou sur le quotidien de ces gens-là s'ils sont en perte d'autonomie. Donc, c'est vraiment une profession qu'il faut valoriser, qui est de grande importance. Vous savez, les gens qui sont soignés vont avoir beaucoup plus de contacts fréquents avec leurs préposés aux bénéficiaires qu'avec leurs médecins. Donc, c'est très, très important qu'on en ait. C'est une ressource qui est primordiale et essentielle.
Absolument. Je dirais même que c'est de l'or en barre, vraiment, là, dans le contexte actuel. Puis, il y a un nouvel outil pour la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Oui, puis on sait qu'on signe différents documents en cas d'incapacité. Lorsqu'on va atteindre un certain âge, ou même des fois on va donner des mesures anticipées très tôt dans notre vie, si jamais il advenait qu'on n'était plus capable de prendre de bonnes décisions pour nous. Et au travers de tous les organismes qui existent, qu'on parle du curateur du public, du protecteur du citoyen, du réseau de la santé, ben tous ces intervenants-là sont appelés à jouer un certain rôle auprès de ces personnes-là, auprès des proches, des personnes vulnérables. Donc, qui fait quoi? De quelle manière ça fonctionne? Ben, le curateur public a sorti ce qu'ils appellent l'écosystème de la protection des personnes assistées ou représentées. Et ça démystifie là, d'une façon, certains vont le trouver peut-être un peu complexe, mais c'est quand même assez simple là, sur un graphique là, qui est très intéressant, qui est très visuel. Quel est le rôle là, de chacune des personnes qu'on parle du gouvernement, des fournisseurs de produits et services, des organismes du milieu de la justice, parce que dans certains cas, il y a des mandats ou des éléments qui doivent être judiciarisés, les milieux d'hébergement. Donc, j'invite les gens à consulter. On a déposé sur notre page Facebook le lien pour avoir accès à cet écosystème-là qui a été publié. Il se retrouve également sur notre page fadoc.ca.
Il est bien fait. Je regarde ça, là, puis il est bien fait.
Oui, c'est très visuel. Et ça permet aux gens, les gens peuvent même l'imprimer et le garder tout prêt parce que c'est une information qui est vraiment intéressante. Puis vous savez, lorsqu'on est pris dans les émotions avec une personne qui va devoir recevoir justement l'assistance, exemple du curateur ou tout ça, ben ça nous permet d'une façon très simple de comprendre le rôle de chacun des intervenants là, concernés dans la situation.
En tout cas, c'est vraiment intéressant. Là, je suis en train de me le faire imprimer moi-même. On va parler des intermèdes FADOC parce que les impôts, ça s'en vient. Puis c'est intéressant pour l'impôt fédéral, c'est intéressant pour les aidants naturels également.
Oui, parce qu'on sait qu'on a toutes sortes de possibilités lorsqu'on fait notre rapport d'impôt. Hein, on en parle à chaque année à l'intérieur de nos chroniques. On essaie de faire de la sensibilisation puisqu'il y a différentes formes de crédits d'impôt qui sont offerts autant au fédéral qu'au provincial. Donc, en ce qui a trait au fédéral, on a une conférence qui aura lieu bientôt avec l'Agence de revenus du Canada qui est le 28 février prochain, donc mercredi prochain. Tout savoir sur l'impôt fédéral, donc quels sont les principaux types de revenus pour les aînés, l'impôt de récupération, les fractionnements du revenu de pension, aussi tout ce qui est possible de faire avec les REER, le TPS, les VQ, etc. Les frais médicaux également qui sont accessibles, qui peuvent être déductibles. Il y a maintenant aussi la nouvelle notion du régime dentaire qui rentre en cause. Et il y a aussi toute une partie qui va être traitée. Et ça, plusieurs l'échappent, je dirais. Beaucoup de personnes qui font leur propre impôt, des fois, ne voient pas cet aspect-là du champ gauche parce qu'ils ne se jugent pas, des fois, aidant naturel. Tu sais, à l'intérieur d'un couple, des fois, on va avoir soin d'une personne. On est un proche aidant, donc les proches aidants ont certains crédits qui sont applicables également pour eux. Donc, pour en connaître plus, mercredi prochain, le 28 février, 14h, à l'intérieur de l'Internet FADOC, les gens peuvent s'inscrire, c'est gratuit à partir de notre plateforme FADOC.ca ou encore à partir de notre page Facebook FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean.
C'est super intéressant. Puis tu dis, à un moment donné, quand tu es aidant, quand tu regardes puis que tu lis au niveau gouvernemental, des fois, tu tombes comme entre deux chaises. Tu ne sais pas trop si tu y as droit, si tu n'y as pas droit. La façon qu'ils ont d'écrire ça, l'information, tu dis, bon, ça me prend-tu un papier du médecin? Ça me prend... Tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un, comme vous avez invité une personne pour ça, pour expliquer comment ça fonctionne, puis parler aux bonnes personnes aussi.
Ben, exactement. Ce sont les bonnes personnes. C'est les gens directement de l'Agence de revenus du Canada, puis... Tu sais, deux semaines plus tard, on a une autre conférence qui sera prévue le 13 mars. On aura l'occasion d'en reparler, mais cette fois-ci avec Revenu Québec. Donc, vu que c'est le temps des impôts, nous, on se dit, on va aller chercher l'information. On la rend accessible à la clientèle. On a des intervenants de choix, de premier plan, qui permettent vraiment là, d'avoir un regard juste. Puis ça permet quoi aussi? Bien, ça permet aux gens d'aller chercher des crédits éventuellement que peut-être ils n'avaient pas pensé demander. Donc, encore une fois, là, j'invite les gens à consulter la programmation d'Internet FADOC sur notre page FADOC.ca.
Maintenant, on va parler des Jeux FADOC qui s'en viennent du 12 avril au 14. En fait, il y a plusieurs activités.
Oui, bien écoute, on va avoir éventuellement, c'est ça, bientôt le lancement du salon en tant que tel, mais on a actuellement déjà mis en place de l'information à l'intention des compétiteurs qui vont vouloir s'inscrire dans une des 13 disciplines au programme cette année. On parle du billard, du baseball poche, on a également les dards au mur, les gros skis, la marche prédiction, le pal américain, la pétanque à tout, pickleball, qui est vraiment un sport extrêmement populaire, les sacs de sable 300, le scrabble duplicata, et cette année, on a deux nouvelles disciplines qui font leur entrée. On parle du crible, donc pour les amateurs de jeux de table, et on a également le cornhole qui est vraiment en grande vogue, là, qui prend beaucoup, beaucoup. On a vu dans le territoire de Jonquière dernièrement là, de gros tournois. Récemment, à Alma, on a eu un tournoi provincial là, où il y avait plus de 300 joueurs, je crois. Donc, on essaie d'adapter notre structure de compétition à la pratique des gens de 50 ans et plus. Donc, un rappel que les disciplines ont lieu là, du 12 au 14 avril prochain. Les personnes, encore une fois, peuvent déjà s'inscrire. Toute l'information est sur le site de FADOC.ca. Les gens peuvent faire leur équipe parce que dans certaines situations, ce sont des sports d'équipe. Et dans d'autres cas, ce sont des sports individuels. Donc, toute l'information est accessible à sadoc.ca. J'invite les gens à s'inscrire dès aujourd'hui.
Prochain sujet et dernier pour aujourd'hui, ça a piqué ma curiosité parce que je me suis demandé si tu me demandais si j'allais être là pour le centenaire d'un événement ou si j'allais vivre jusqu'à 100 ans.
Ben voilà, puis j'ai fait par exprès lorsque je t'ai envoyé les sujets de la chronique aujourd'hui, parce que j'ai récemment, dans ma quête d'information, hein, parce que tu sais que la source de l'orientation de nos actions ici, c'est de toujours s'assurer d'avoir une vision sur les besoins actuels, mais sur la perspective de ce qui s'en vient également. Puis, je me suis intéressé à la question, bien entendu, de l'espérance de vie, qui a quand même, là, au cours des dernières années, un peu stagné, principalement dû au fait qu'il y a beaucoup de sédentarité chez les plus jeunes générations et aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup, malheureusement, de malbouffe là, qui a fait sa place. Et ça, malgré que les technologies médicales ont quand même évolué d'une façon importante aujourd'hui, et la médication également, qui permet aux gens de vivre de plus en plus longtemps. Mais là où j'ai pris un bon 2 minutes, comme on dit en bon québécois, c'est lorsque je me suis intéressé à la question des centenaires. Donc, selon les dernières données statistiques au Québec, en 2021, on comptait 3200 personnes de 100 ans et plus au Québec. Dont une quarantaine dans la région.
C'est quand même beaucoup.
C'est quand même énormément quand on regarde ça, 40 centenaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je dirais même que c'est impressionnant. Mais là où j'ai été jeté par terre, c'est lorsque j'ai regardé les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec qui nous donnait le nombre de centenaires estimés qu'on aura en 2060. Bon, on s'entend, Nick, toi et moi, probablement qu'on ne fera plus de chronique à cette date-là.
Je pense. Je pense.
Cependant, d'autres auront peut-être pris le flambeau. Mais on estime qu'en 2060, les projections de l'Institut de la statistique du Québec, à ton avis, Annick, on comptera combien de personnes de centenaires au Québec en 2060?
J'en ai aucune idée. Aucune idée. Ça n'a pas de bon sens.
Écoute, ben c'est je pense que moi-même, j'en avais aucune idée et j'ai été jeté par terre lorsque j'ai vu la nouvelle. On estime qu'il y aura 44 000 centenaires.
44 000?
En 2060. Alors ça, lorsqu'on regarde ça, tu sais, je disais tout à l'heure, il faut regarder par en avant pour toujours prévoir et s'adapter. Ben toute notre infrastructure de services, nos commerces et tout ça va devoir nécessairement s'adapter à un flot de gens âgés qui va être de plus en plus présent, parce que si on parle de 44 000 personnes de 100 ans et plus, ben il faut imaginer en aval de ça les 90, les 80, les 70. On en aura également de plus en plus. Donc, je dirais toute l'évolution médicale, toute l'amélioration aussi par rapport à la condition physique des gens, tout ça, bien, on a une espérance de vie qui est de plus en plus longue. Ce qui sera intéressant de voir en parallèle de ça, puis ça, je n'ai pas trouvé la donnée encore, c'est de voir notre autonomie fonctionnelle, elle sera jusqu'à quel âge. Donc, actuellement, on parle d'une autonomie fonctionnelle qui est autour de 67 ans, où on va voir apparaître là, les premières diminutions importantes en moyenne chez une personne qui avance en âge. Donc, est-ce que ça va également se prolonger? On va avoir une espérance de vie fonctionnelle qui vont être encore plus longues.
J'espère, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai rien contre vivre jusqu'à 100 ans. Il y a des centenaires à qui on souhaite bon anniversaire régulièrement là, dans cette émission-là, dans l'émission de l'après-midi. Mais, tu sais, quand tu n'es pas en forme, quand tu n'es pas fonctionnel, je me demande si ça vaut la peine de poursuivre sa vie. Ça, c'est une question qui m'appartient peut-être à moi. Mais quand tu es malade, quand tu es dans une institution, quand je me pose la question, là.
Oui, bien, tu as raison.
Puis, centenaire en forme.
À cet égard-là, au Québec, on a ouvert des débats qu'on n'avait pas il y a quelques années, notamment avec l'aide médicale à mourir, les mesures anticipées maintenant au niveau des traitements, donc qui fait en sorte que certaines personnes qui ont des maladies où il n'y a pas de retour en arrière, ben, peuvent décider d'aller dans un certain sens. Mais tout ça pour mentionner que notre société va évoluer, la configuration humaine va également continuer de changer et la présence de personnes de plus en plus âgées va être omniprésente à l'intérieur de notre société. Même si à partir de 2030, on va le voir, là, on va avoir un regain, là, la pyramide des âges revenir un peu plus avec des plus jeunes générations, mais on va compter encore une fois là, des gens de plus en plus âgés qui vont être présents et de plus en plus vieux. Donc, quand même impressionnant comme chiffre. Je voulais vous partager ça ce matin. Et je suis certain que ça fera probablement l'objet de quelques discussions dans le courant de la journée aussi pour les gens qui auront entendu la chronique ce matin.
Oui, absolument. Puis tu sais, moi, ce que tu me racontes ça, puis je me dis, ça va prendre... Tantôt, on parlait de préposer avec du cœur. Bien, ça va prendre vraiment des gens tournés vers le cœur, l'humanité, pour accompagner toutes ces personnes-là. Il va falloir arrêter de se regarder le nombril puis penser plus à la famille, hein?
Oui, tu as raison, Annick, mais en même temps, lorsque je regarde ça, il y a des personnes, lorsque j'ai commencé à la FADOC il y a 35 ans maintenant, ça a fait 35 ans le 1er février dernier, je regardais les gens de 60 ans avec lesquels je travaillais à l'époque, les gens de 65 à 70 ans. Mm-hmm. Ben, écoute, ces gens-là, je te dirais, ressemblent beaucoup aux gens qui ont, tu sais, on est dans le début des 80 ans aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a quand même une évolution par rapport au vieillissement, par rapport, je parlais d'autonomie fonctionnelle tout à l'heure.
Oui, oui.
On voit que les gens vivent de plus en plus longtemps en forme. Et si on regarde même la configuration du marché du travail aujourd'hui, t'en avais pas de gens à l'époque où c'était rarissime, des gens de 60, 70 ans qui travaillaient, 70, 80 ans même. Aujourd'hui, il est pas rare, oui, de voir dans les commerces à différents endroits ces gens-là qui travaillent. Donc, on va avoir des gens qui vont quand même conserver une autonomie plus longtemps. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on commence à voir aussi. Mais c'est bien entendu que des préposés vont être nécessaires et on va avoir aussi quand même une pression sur le système de santé qui n'est pas sur le point de baisser.
Absolument. Hey, c'est intéressant comme chronique ce matin. On va se reparler la semaine prochaine, Patrice.
Avec plaisir. Bonne semaine à vous et à toi et à tous nos auditeurs. Bye bye.
Merci. Bye.